Alternative Urbaine. Choc FM, Eric et Hélène vous présentent une nouvelle mission Encre Noire. C'est le tome 2, le chapitre 26. On est mardi 12 avril.
Salut Hélène. Zénobe marche entre les voitures et 20 ou 30 mètres devant la Volvo, il tombe dénu devant une Golf aux plaques françaises. C'est une 74, mais il n'y a personne à l'intérieur. Il avance encore un peu et voit un type d'une trentaine d'années venir dans sa direction. « C'est à vous, la VW ?» demande Zénobe. « Ouais. Et toi, t'es par là ?»« Deux ou trois rangs derrière, là, par là. Bernard, salut. » Zénobe. « T'es seul par ici ?» Non, non, avec des amis, répond Zénobe, qui se rend compte trop tard qu'il a employé le pluriel. Moi, je suis seul, je vais sur Moscou, et vous ? Saint-Pétersbourg. Alors on va faire la route ensemble, jusqu'à Minsk, dit Bernard. Ouais, sûrement. Tu connais bien le pays ? Non, le pays, non. La Biélorussie, je connais à peine, mais la route, ça doit bien faire la dixième fois que je la prends. Tu bosses à Moscou ? Pas vraiment. En fait, j'ai une boîte là-bas avec une assoce. J'amène toujours un tas de merdier depuis la France, puis je laisse les voitures en Russie pour le bureau et je rentre en avion. Ils sont adossés à la Golf et la file de voitures ne bouge toujours pas d'un pouce. Bernard a l'air très à l'aise, pas blasé, mais décontracté et sûr de lui. Il connaît le coin, la situation, un vrai poisson dans l'eau. Il pleuvote à peine et il reste là à discuter le coup. « Et c'est quel genre ton business, si c'est pas indiscret ?» demande Zénobe. On a une entreprise de pub, de signalétique plutôt. On fabrique des supports publicitaires, quoi. Tout ce qui est découpe de vinyle, panneaux, vitrines, véhicules, plus le textile, fanions, t-shirts et surtout des emballages de bouffe pour des cornets de glace, du thé, des surgelés, bref, un peu de tout. On a l'exclusivité sur une ou deux grosses entreprises, alors ça va vite, ça fait du volume. On leur fait la totale, affiche, pub dans les journaux, déco des bagnoles, emballage des produits. Ouais, plutôt maous, ton truc. Ouais, ça commence à donner. On a une trentaine d'employés, mais sur Moscou, c'est tellement énorme qu'on est des tout petits. Mais moi, je fais rien. C'est mon pote qui dirige. Je me charge seulement de l'achat de matos en Europe quand c'est moins cher.
C'était un extrait de Otchitchornia de Michael Ramseyer qui est paru récemment aux éditions Coup de tête. Alors Eric, je te laisse commencer comme d'habitude avec une petite présentation du livre.
Ouais.
Et puis on va enchaîner avec quelques questions à l'auteur qui est avec nous en studio.
Ouais. Que peut-il bien se passer dans votre tête lorsqu'un dimanche après-midi banal, une femme inconnue joue les cadavres étendus dans votre salle de bain ? Non seulement est-elle morte, mais tout porte à croire qu'elle vivait clandestinement sous votre toit à votre insu et laisse derrière elle installée dans votre cuisine une fillette d'origine russe âgée de 7 ans. C'est ce que Zénobe, le personnage principal de ce livre, va vivre. Il a 30 ans, journaliste et rédac chef adjoint pour un grand magazine parisien. L'enquête est lancée pour résoudre ce mystère et surtout trouver quoi faire de Lana, la jeune fillette trouvée dans la cuisine. Le récit tumultueux va nous mener de Paris à la Côte d'Azur avant de traverser l'Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg et plus encore. Le puzzle de cette macabre affaire va se mettre en place dans la tête de Zénobe ou bien dans celle de l'étrange inspecteur de police Édouard ou encore de la propre famille du journaliste venu à la rescousse et tombé sous le charme de la fillette. Le suspense vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement. Ce roman, Oči Černja, les yeux noirs ou les yeux fermés, je ne sais pas trop au niveau de la traduction, se révèle une intrigue passionnante, parsemée de tirades de la part des personnages sur des sujets polémiques. Au fil des pages, l'auteur Mikhaïl Vadimovitch Ramseyer prouve qu'il n'a pas peur de la controverse. Né à Genève d'une famille ayant décidé de fuir la révolution russe de 17, il est, paraît-il, passé par de nombreux métiers autant que de pays. Katmandou, Mongolie, Afrique du Sud ou Syrie, puis j'ai entendu parler de Venezuela aussi. Il s'est installé désormais sur une île des Caraïbes où le son des vagues ou les guitares enragées du groupe belge Vénus détrompent la langueur des journées. Mikhaïl Vadimovitch Ramseyer nous fait le plaisir d'être dans nos studios ce soir. Bonsoir Mikhaïl.
Bonsoir.
Alors que préférez-vous sur la plage, le son des vagues ou celui de Vénus ?
Sur la plage, j'écoute pas trop de musique en général.
Okay.
Alors, moi je vais commencer avec des questions plus axées sur le livre. Je commence par une question assez pragmatique. Donc, le roman est assez épais, c'est quand même une brique. 545 pages. Combien as-tu mis de temps à l'écrire et est-ce que tu as dû te restreindre ou est-ce que c'est naturel de...
Combien de temps j'ai mis c'est difficile à dire, je dirais... 6 à 9 mois, à peu près, à l'œil, comme ça. Il y a l'écriture pure, et puis après, il y a tout l'aspect correctif. Je ne parle pas de la correction orthographique et autres, mais simplement de réviser qu'on n'a pas trop écrit de conneries, qu'il n'y a pas trop de redondance, donc il faut revenir en arrière, etc.
Et ça prend combien de temps?
Là, j'ai bien mis 2-3 mois, c'était assez important. Donc au final, je dirais à peu près une gestation de 9 mois, ouais, quelque chose comme ça.
Et c'était un roman auquel tu pensais depuis longtemps ou
Non, pas tellement, non. Non, non, c'est une idée qui est partie comme ça. Et puis je m'y suis mis. Chaque fois que je suis dans un livre, je commence et je finis. Je veux dire, je me mets dedans.
D'accord.
J'ai pas l'habitude ou la capacité, je sais pas, j'ai jamais vraiment essayé d'interrompre des choses comme ça. Ou alors, on interrompt par force, ça m'est arrivé. Un précédent livre que j'ai commencé quand j'avais 17 ans, je l'ai fini quand j'en avais 30 de plus presque.
D'accord.
Et étais-tu tout le temps sur les mêmes idées ou ça avait un peu évolué?
C'est la forme qui me posait problème. Les idées étaient les mêmes, elles n'ont pas beaucoup bougé d'ailleurs. Je les ai un peu peaufinées, mais non, la forme me posait problème. J'hésitais entre une nouvelle, un récit, un roman, et puis ça allait jamais. Et puis j'ai toujours mis ça de côté, remis de côté. Puis 30 ans après, j'ai eu un éclair de génie. J'ai fini.
comment t'es venue l'idée de ce type ordinaire qui trouve une femme comme ça morte,
ça part d'un fait divers authentique et paradoxalement, je dis ça pour tous les correcteurs, parfois en culeur de mouche, c'est vrai que ça peut être très pratique d'avoir des gens qui passent derrière et puis qui cherchent les choses non crédibles. Je parle pas là de l'orthographe ou de faute de français ou Dieu sait quoi d'autre, mais
fond,
simplement
quoi.
Du fond, de la cohérence. Ouais. Des fois, c'est vrai qu'on peut passer sur des trucs. Bon. Et là, en l'occurrence, mon correcteur des éditeurs, m'a dit en préambule tout de suite, ouais, ça tient pas cette histoire, c'est pas possible, personne peut vivre comme ça, en clandestin, dans un appart. Je dis, manque de bol, c'est le seul truc authentique du livre. Le reste...
Pourtant, le reste des propos, quand même, sur la société,
non,
c'est
mais,
réaliste.
Non, mais façon de parler, dans l'intrigue est imaginaire. Mais le point de départ est authentique. J'avais lu un entrefilet, c'était pas un très grand article, ça se passait, je crois, à Tokyo. J'ai pas gardé, d'habitude je garde quand j'ai un truc comme ça qui m'intéresse. Et, mais là, au manque de bol, je n'avais pas gardé, mais c'était resté en mémoire. Un type, un jour, rentre chez lui et il tombe nez à nez avec un autre gars, quoi, qui s'est avéré être un clandestin qui vivait chez lui. Et ils en avaient fait un article parce qu'il semblerait que dans des très grandes villes comme ça, où l'espace coûte cher, où c'est pas facile, ça avait tendance, d'après l'article en tout cas, à devenir un petit peu, si ce n'est habituel en tout cas, à exister comme phénomène.
D'où ce point de départ.
Voilà.
Par ailleurs, je reste sur le fond. Les personnages tiennent des propos souvent désabusés. Ils dressent des constats assez sombres de la vie. Est-ce que le livre est pour toi un moyen de nous parler de l'état du monde, de faire passer certaines idées, que ce soit Internet, les sans-papiers, la vie professionnelle? Est-ce que c'est... on sent un peu dans le ton l'envie d'en découdre, si je peux dire.
Pas vraiment d'en découdre. Je crois qu'il y a un proverbe russe, je ne sais pas si je le cite dans le livre à un moment donné, c'est qu'un pessimiste est un optimiste bien informé. Je crois que c'est...
Je m'en souviendrai.
Je crois que c'est ça. Si on est un tout petit peu lucide, on peut difficilement dire que le monde va bien, quoi. Et puis, ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est peut-être toujours été, j'en sais rien. Je m'en fous, c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Et ne pas le voir ou refuser de le voir ou n'en pas parler, c'est un peu débile, quoi. Surtout si on parle, j'entends, si on a un minimum envie de s'adresser aux autres, que ce soit par le biais de la chanson, d'un bouquin.
Mais donc c'est une idée de réveiller un peu les consciences ou de donner ton bilan?
Non, c'est certainement, je ne serai jamais porte-drapeau de quoi que ce soit, donc ça c'est hors de question. Donc c'est simplement écrire à un moyen de communication. Communiquer, c'est parler avec les gens, donc on parle des choses qui nous touchent. Et le monde va mal, la route est sale, les gens sont vilains, méchants. C'est comme ça, c'est la vie, donc on parle de la vie.
Et est-ce que le polar est un moyen intéressant, justement, ou le livre aujourd'hui, de parler politique? Parce que tu fais aussi une critique des médias, et on a l'impression que peut-être les médias, du fait qu'ils soient beaucoup assujettis aux puissants et aux intérêts économiques, ne peuvent plus vraiment en parler, ou pas de la même façon, de la politique, de façon aussi libre. Des sujets politiques, j'entends politique au sens de la société en général, pas forcément.
C'est sûr, il y a des changements. Il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on est à une charnière où on a dépassé déjà quelque chose, je ne sais pas. On dit que l'histoire s'accélère. Hein. On a vécu je ne sais pas combien de centaines d'années avec des socs, des charrues ou des sabots en bois. Et on a vécu quoi, un demi-siècle avec des vinyles de 78 tours à 33. Et puis quoi, 10 ans, 20 ans avec des CD, combien de temps avec des Blu-ray, j'en sais rien. Plus ça avance, plus c'est court. Moins on a le temps de vraiment digérer les nouveautés. Et je crois qu'il y a un jour où il faudra se dire qu'on est dans une autre ère. C'est-à-dire qu'on est soi-disant dans l'époque moderne, mais on est presque dans une nouvelle époque depuis qu'il y a le numérique en particulier. Le numérique, mais dans le sens large, c'est pas que le numérique, c'est tout ce qui va avec. C'est justement des nouveaux médias. C'est Internet, c'est tout ça. Ça nous a amené une pléthore de nouvelles technologies. Tu parles du journalisme, tu regardes le journalisme dit citoyen via des sites comme Agoravox ou la connaissance pseudo-populaire type Wikipédia. Tout ça sont des choses totalement nouvelles. Et ça modifie non seulement notre perception à nous, mais celle de ceux qui viennent, des enfants. La connaissance n'est plus la même. Moi, je lis des articles de presse dans des journaux, je veux dire papier, où des journalistes font référence à un article de Wikipédia. Voilà la définition que donne Wikipédia. Ouais. Mais moi, la définition de Wikipédia, je la mets s'il faut. Ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi.
Et tu parles de Wikipédia. Hein, dans le livre, il y a comme ça des moments dans le livre. Il y a l'histoire et puis il y a toutes les pensées des personnages, toutes leurs interrogations sur le monde. Et effectivement, ils s'arrêtent sur certaines choses. Et là, il y a un discours qui est développé.
C'est assez flagrant, d'ailleurs, même dans la construction de ton livre, parce que ça arrive beaucoup au tout début, dans la partie, on va dire, européenne, occidentale. Tu interviens beaucoup en critiquant beaucoup à ce moment-là, un peu tout ça, l'Internet.
C'était volontairement pour camper les personnages. Je veux dire que mes personnages arrivent à une situation dramatique. Je veux dire, tous autant qu'ils sont, arrivent dans une situation où leurs choix sont assez terribles. Parler de l'histoire, mais il y a un personnage qui finit par se suicider, d'autres qui se retirent du monde. Et ça t'arrive pas comme ça, je veux dire. Il y a un minimum, il faut expliquer au lecteur pourquoi ce personnage est arrivé à une telle extrémité. Donc il faut qu'on puisse suivre son cheminement intellectuel aussi, pourquoi la personne se sent oppressée dans ce monde-là. Alors bon.
Et c'est très réaliste, enfin, la façon dont tu fais ça, on est vraiment dans les pensées, l'argumentation intérieure, si je peux.
Ouais. Je trouvais que de faire passer des idées via un dialogue, ça limite, parce qu'on ne peut pas faire des dialogues étouffe chrétien avec 50 pages de dialogue, donc c'est un peu difficile. Le dialogue, c'est plus dynamique, donc c'est dur. Et puis bon, d'intégrer des passages trop lourds comme ça, de documentaire, c'était pas terrible non plus. Donc l'idée c'était de faire quelque chose d'un petit peu entre deux. Donc quand je passe sur des passages comme tu décrivais, c'est vrai que parfois c'est un peu lourd, on l'a eu reproché d'ailleurs. Et j'ai dû sabrer pour revenir à ce que tu disais au départ. Oui, je me suis restreint. J'ai dû en enlever pas mal là-dessus. Mais l'idée, c'était ça. C'était de dire, à un moment donné, je parle au lecteur comme si c'est moi qui m'adresse à lui. Tu vois là ce que je pense de ça, boum, je lui balance un truc. Mais en même temps, c'est quand même le personnage, donc il faut rebondir. Et puis, par-ci, par-là, il y a des petites phrases qui font comprendre qu'à ce moment-là, c'est le personnage qui, par exemple, parce qu'il est journaliste, est en train de cogiter sur sa prochaine chronique. Donc ça reste dans... dans le tempo du livre, mais en même temps, je m'adresse au lecteur en direct, quoi.
Ouais, mais il y a quand même, il y a de l'espoir, comme dans ce livre. On va pas dire que tout est noir, quand même. Mais l'espoir, ce qui réside dans la fuite, dans l'ailleurs, dans le voyage, ou dans le retour à des valeurs un petit peu plus anciennes, ou, tu sais, la terre, le terroir, comme tu le fais un peu sentir, dans le passage un peu là.
Le mouvement, aussi, ouais. La mise en mouvement, en fait.
Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, dans une situation d'oppression, il n'y a pas tellement de solutions autres que chacun doit trouver sa porte de sortie, quoi. Chacun doit trouver ce qui lui convient. Et puis, en l'occurrence, moi, je pense que c'est refuser ce qu'on t'impose. Le monde dans lequel tu vis, tu ne l'as pas choisi, mais tu peux toujours choisir d'en sortir. Après, c'est chacun à sa manière, chacun voit les choses. Alors oui, là, il y a un personnage qui choisit le suicide. Bon, c'est sa manière de sortir de ça. Et puis un autre qui se retire du monde tel qu'il est, en tout cas. Bon, puis il a la chance, mais ça, c'est du roman aussi. Il a la chance de pouvoir se reconstruire autrement et en dehors de tout ce stress et cette oppression. Et c'est sa manière à lui de quitter ce monde-là, quoi.
Il y a beaucoup de personnages aussi qui sont bons vivants, ou alors d'ailleurs, des personnages qui peuvent à la fois être très noirs dans leurs réflexions et être à la fois. Moi, je suis frappée par le côté bon vivant. Tu décris ce qu'ils bouffent, ce qu'ils boivent. Ils ont à la fois des questionnements, mais ils sont aussi très dans le présent, accepter les choses telles qu'elles se. Une rencontre, et hop, on en profite, on ne se pose pas tellement de questions. Enfin, il y a ce côté-là, bon vivant. Est-ce que c'est un peu un manifeste, une façon de dire on peut vivre aussi comme ça, ou c'est une façon de.
Je ne l'ai pas écrit comme un manifeste, mais effectivement, c'est ça. C'est la vie, c'est comme ça. La vie est dure, ça ne t'empêche pas de bien bouffer et puis d'apprécier des bons copains. Et puis de passer une soirée sympa, je veux dire, c'est comme ça. Sinon, alors, c'est la sinistrose, puis on crame tout le monde, quoi. Ouais,
en fait, t'es pas trop du style à rester sur Facebook chez toi le soir en rentrant.
Non,
en fait,
je veux même pas savoir ce que ça fait.
On va faire une petite pause. On va rester dans le roman. On va faire une petite pause musicale. Tu vas reconnaître quelque chose? Est-ce que c'est Vénus? Voilà, c'était Vénus, Royal Sucker, pour bien rester dans le roman finalement, parce que Vénus est cité une couple de fois. Hein,
et puis à la fin du livre, donc c'est ça qu'on.
Ouais, parce que c'est le rock'n'roll, la musique prend beaucoup de place dans ton roman.
Et une bande son donc qui est indiquée à la fin.
Tout à fait, j'ai fait une liste que j'ai mentionnée. Bon, évidemment, j'aurais bien voulu l'éditer sur, je sais pas, iTunes ou je sais pas quoi, mais ça marche pas parce que les trois quarts des morceaux sont difficilement trouvables. Alors que c'est pas commercialisable, ça les intéresse pas, on peut pas publier le truc. Donc je l'ai mis dans le livre, et puis sinon j'aurais mis un lien, j'aurais dit, on va aller chercher la musique là ou là. Et donc j'ai fait une liste comme ça, de tous les morceaux non seulement cités, parce qu'il y a des morceaux cités évidemment, et puis aussi de la musique que j'ai particulièrement utilisée moi, lors de l'écriture. Je trouve que c'est important, je l'ai fait toujours depuis, j'écris mon premier bouquin, j'avais 15 ou 16 ans, et j'avais déjà fait ça à lire en écoutant. J'avais appris ça, j'ai rien inventé, j'avais appris ça avec, c'était Jonathan, la bande dessinée. Derrière, on pouvait On pouvait voir les albums qu'il fallait écouter. Alors, c'était...
Donc, ton premier roman, tu veux dire Le Démon du Silence ou La Vie
ouais,
et Mort d'un Mille ?
Ouais, c'était pas un roman, c'était de la poésie. Ouais.
Ah, ok, pardon. Okay.
Mais ça veut dire qu'à chaque livre, correspond à une bande-son.
Ouais.
C'est pas la même, tu t'écoutes pas forcément toujours la même chose. C'est, tu cherches la bande-son qui va avec voilà, ce que t'es en train d'écrire ou alors c'est le contraire, c'est la bande-son qui t'a...
Non, c'est compliqué parce que c'est compliqué à trouver la musique parce que personnellement, j'ai besoin d'écouter de la musique, j'entends normal, mais en écrivant aussi, parce que c'est une ambiance, et ça me permet de, peut-être aussi de décrocher d'autres trucs pendant ce temps que je suis dans ce que je fais. Mais tu ne peux pas écouter ce que tu veux, parce qu'écouter du français, par exemple, c'est foutu, parce qu'il faut se concentrer quand même sur ce qu'on écrit. Et puis pareil, si la mélodie est trop prenante ou comme ça, parce que le cerveau a tendance à partir un peu. Alors, il faut trouver quelque chose qui soit un peu neutre, qui fasse un peu musique de fond, mais pas trop. Et puis, c'est pas facile, quoi. Et effectivement, là, dans le dernier, là, dans Hotchkiss, j'ai vraiment bien croché sur Vénus, que j'écoutais avant déjà, mais je me suis rendu compte que je pouvais écouter ça en boucle sans problème en écrivant. Et ça interagit beaucoup sur la façon d'écrire, parce que si t'as un dialogue un tout petit peu romantique, sensuel, puis que t'écoutes du hard rock à côté, tu n'as pas les mêmes mots.
Ça sera un amour vache.
Ouais, voilà. C'est pas le même langage. Quoi.
C'est pas le même langage. Dans ton roman, la Russie est au cœur de ton écriture. Et les pays de l'Est, justement, la Russie, sont-ils l'avenir de l'Europe, comme tu le laisses entendre à un moment donné?
L'avenir de l'Europe, j'ai pas eu l'impression de dire ça. Mais...
Ok.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est des pays qui sont... tout neufs, quoi, on va dire, parce que bon, ça fait que 10 ans que l'URSS s'est cassé la gueule et le mur et tout ce qui va avec.
Mais donc, penserais-tu que ça serait le grand frère qu'on aurait un peu oublié en Europe, si ce n'est pas l'avenir
C'est ce que pensaient les panslavistes à l'époque de Dostoïevski et compagnie. Les panslavistes avaient pour théorie que la Russie serait forcément l'avenir du monde parce que ça représentait la synthèse de l'esprit oriental et occidental. Alors bon, là-dessus, je laisse. Penser ce qu'il voulait, mais je pense que, par ailleurs, c'est vrai que c'est un grand frère, si ce n'est oublié, en tout cas négligé. Et quand on est en Russie, on est frappé par le fait que les Russes savent tout, je symbolise en disant les Russes, mais c'est souvent les Slaves. Mais les Russes savent tout de nous en termes d'Occident, je veux dire. Et à l'inverse, la plupart des Occidentaux ne savent strictement rien de la Russie. Ils ont vaguement entendu parler de Tolstoï et c'est à peu près tout, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc étonnant. Quand on est là-bas, je veux dire, en Russie, tout le monde sait tout. Tout le monde connaît les écrivains, les chanteurs, la musique. Mm-hmm. Tout le monde parle une langue étrangère. Tout le monde lit les caractères latins. Trouve-moi en France quelqu'un qui sait ce que c'est un caractère cyrillique.
Oui, mais en même temps, il y a certains de tes personnages qui font passer l'idée qu'on refuse un petit peu quand même la modernité, enfin, un aspect de la modernité.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est un autre aspect des choses, quoi. C'est sur l'aspect méconnu de la Russie qui a peut-être beaucoup à apporter. Déjà parce que, bon, la Russie, historiquement parlant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais historiquement parlant, elle n'a jamais connu l'occupation romaine et donc elle s'est développée totalement en marge de l'Europe. Elle n'a pas les mêmes influences, elle a une influence asiatique importante, ça a généré des mentalités très différentes encore aujourd'hui. Il y a une part de mysticisme, il y a des tas de choses comme ça qui, pour un occidental, paraissent assez curieux. C'est des choses bizarres quand on arrive en Russie. Donc la Russie a des choses à apporter, la Russie ou le monde slave. Ça, c'est une chose. Et puis, justement, peut-être, paradoxalement, mais ce côté retiré, refermé un petit peu, mais ça, c'est une vision encore très occidentale, fait que c'est un monde différent, quoi, qui se développe pas de la même manière.
Donc, un territoire de roman possible, de fiction possible pour un écrivain, quelque chose d'assez,
ouais.
Un paradis, un peu.
Ouais, ouais. Bon, j'insiste, ça reste du roman, hein, parce que... Ouais. Moscou, c'est plus proche de New York et Londres que.
Ouais, mais ça reste un territoire de fantasme parce qu'on a présenté ici le roman Urkas et évidemment on va parler de la mafia et tout le temps ce fantasme mafieux un peu partout sur tout le territoire de la Russie. Penses-tu que le système D, la débrouille habituelle auquel on accole un peu à ce pays-là, à la Russie en général, enfin Russie, Biélorussie, enfin, toute cette collection, tu occultes quand même dans ton roman l'aspect mafieux. Il y a un système des mères, un système D entre tes personnages une fois qu'on arrive à Saint-Pétersbourg, par exemple. Mais le côté mafieux n'apparaît quasiment pas dans ton livre.
Non, parce que moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois que c'est du mythe, quoi. La mafia, elle existe, mais tu vas en Italie, tu n'as pas l'impression de tomber sur des mafieux partout, quoi. Mm-hmm. Bon, ouais. C'est la même chose en Russie. Moi, j'ai eu du business là-bas, j'ai eu des sociétés, j'ai travaillé sur des gros salons d'exposition pour... pour moi, quoi, pour des petites boîtes, mais je veux dire, j'ai couvert des stands d'exposition pour des boîtes suisses, pour des trucs comme ça. J'ai jamais un mec qui est venu en me disant, attends, c'est qui t'as sur ton stand, il va falloir payer ton écho, parce que sinon, on te sort par, tu vois. Non? Je veux dire, moi, j'ai jamais rien vu, j'ai fait du business, j'ai eu des employés, j'ai vécu, j'ai acheté un appartement à Saint-Pétersbourg, j'ai fait plein de trucs. J'ai jamais rien vu, ni l'ombre d'un mafieux, ni de...
Mais est-ce que, voyou, quoi. Est-ce que tu as dépassé la vitesse sur les autoroutes
Ouais, mais ça, on peut toujours s'arranger avec.
C'est ça.
Parce que c'est ça. Moi, je me demandais quelle était la part d'anecdotes personnelles, parce qu'on sait que tu es un grand voyageur, d'après ce que dit la biographie. Donc, je me disais, est-ce que dans tes romans, tu mets comme ça beaucoup d'anecdotes personnelles ou des rencontres, les personnages sont inspirés des gens que tu as croisés?
Ça, c'est toujours l'éternelle question, bien sûr. C'est toujours nous, un peu nous, mais... le fait que j'ai été journaliste pendant 10 ans, on me dit, ouais, alors le personnage principal, Azenob, il est journaliste, donc c'est toi. Je dis, non, c'est pas moi. Il a pas mon âge, il a pas mon profil, je pense pas comme lui, pour plein de trucs. Il y a des parties. Moi, j'ai l'impression, comme disait Stephen King, j'ai lu une fois, il disait ça, les personnages, ils existent par eux-mêmes. Vraiment, ils existent par eux-mêmes. J'ai des personnages qui ont pas du tout eu la vie qu'ils auraient dû avoir dans le livre que j'avais prévu, quoi. Mm-hmm. Moi, j'écris pas de plan, je fais aucun plan. Je pars d'une idée, et puis bon, il faut avoir un petit peu l'idée d'où on va, évidemment. Mais ça s'impose comme ça. J'ai un personnage féminin, par exemple, qui était censé être la compagne du personnage principal, et très vite, elle m'a énervé, quoi. Non, mais vraiment, elle avait des réflexions connes, et commençait à devenir vraiment gonflante. Et puis, en fait, après, évidemment, plus il y a des choses désagréables que j'ai envie de dire, je vais plus le mettre dans sa bouche à elle, donc elle devient d'autant plus... donc, je l'ai shooté, quoi. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, et puis ça s'est passé comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont leur vie. Alors, on les crée, bien sûr, à la base de réalité. On ne peut pas inventer non plus tout. Donc, c'est souvent des conglomérats comme ça, soit d'impressions, soit de gens. J'ai certains personnages qui sont pratiquement sortis du réel, quoi. En entier, je veux dire. J'ai vraiment repris parce qu'ils avaient un parcours incroyable qui m'a marqué, que j'ai toujours admiré pour une chose ou une autre. Et je les ai récupérés presque tels quels.
Et tu es édité chez Coup de Tête, pour finir. Pourquoi une maison d'édition québécoise? C'est un hasard, une rencontre?
Ouais, c'est ça, c'est une rencontre. Le hasard, je sais pas, mais une rencontre. Donc j'ai rencontré Michel Vézina par biais d'email, donc courrier électronique. Et là, pour tout à fait autre chose, j'ai écrit un livre sur la piraterie qui n'était pas un roman, c'est un essai historique. Et il avait besoin de renseignements un peu pointus là-dessus. Pour une émission de radio, je crois qu'il faisait.
Okay.
Et donc, voilà, on s'est contacté comme ça, et on a eu un bon contact. Par le biais de la discussion, il m'a dit qu'il était éditeur, j'étais sur mon bouquin, et puis ça s'est fait petit à petit comme
nous,
ça. Quoi.
Nous, on en profite. Bah, c'est déjà la fin de l'émission. En tout cas, bah, on te remercie d'avoir
merci
accepté notre invitation. Merci, je rappelle que Otchit Chornia a été publié aux éditions Coup de Tête. Allez-y, je vous encourage à le lire. Je vais rappeler aussi des livres que tu as déjà écrits auparavant. Jetez donc un œil sur Cosaque aux éditions Nemo en 2009. Je ne sais pas si c'est encore disponible, si on le trouve facilement.
Oui,
tu en parlais tout à l'heure, La Voile Noire, aventurier des Caraïbes et de l'océan Indien, ton livre sur la piraterie, n'est-ce pas, qui est paru aux éditions du Favre en 2006. Voilà, bah, merci de nous avoir écoutés. Bah, écoute, Hélène, on a encore une émission la semaine prochaine.
Oui,
d'après ce qui est prévu. Bah, écoutez,
je crois même que c'est toutes les semaines.
C'est ça. Bah, on vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.
Salut. Au revoir.